7 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines sur RFI pour se parler chaque jour du nord au sud. Et en s'étant troublé par l'incertitude, l'inquiétude, c'est devenu finalement une qualité indispensable à la survie et au bonheur que l'optimisme. Alors comment développer chez son enfant l'optimisme, cette force intérieure, ce facteur d'équilibre et de réussite? Voilà, comment faire de son enfant un enfant doué d'optimisme? Nous allons en parler avec vous, Alain Braconnier. Bonjour.
Bonjour.
Vous publiez L'enfant optimiste et comme tous les psychologues et psychiatres travaillant avec des enfants et des adolescents, vous semblez finalement parfois inquiet peut-être du pessimisme qui règne sur notre époque. Non, nous allons en parler en tout cas.
Oui, bien sûr, parce que le pessimisme est un peu une ambiance générale.
Des adultes.
Qui est évidemment surtout véhiculée par les adultes, on en parlera, et qui fait qu'évidemment les enfants sont quand même avec ce discours un peu général, par les différents contacts qu'ils peuvent avoir avec le monde adulte, et que en définitive, il faut essayer quand même de les rendre un petit peu plus convaincu que la vie n'est pas que noire.
Justement, nous verrons si l'enfant est, dès la naissance, un véritable optimiste, apte aux rêves surtout. Et quant à vous, bien sûr, les voisins et les voisines, appelez-nous tout de suite. Dites-nous quelle place tient l'optimisme dans votre vision de la vie, dans votre vision de l'avenir et dans votre relation surtout avec vos enfants. Vous nous appelez surtout, n'attendez pas la fin de l'émission, au 33 1 84 22 71 71 et n'oubliez pas sinon de laisser vos numéros de téléphone sur les réseaux sociaux. Nous vous rappelons immédiatement. Voilà, je rappelle le numéro 33 1 84 22 71 71. Nous parlons de l'enfant optimiste aujourd'hui. Alain Braconnier, voici quelques témoignages et réactions de nos auditeurs sur le fil Facebook. Amsata, qui est dans le nord du Sénégal, nous dit comment apprendre à son enfant à être optimiste. Eh bien simplement en étant optimiste soi-même, car le premier comportement de l'enfant, c'est l'imitation. Si ses parents sont optimistes, il le sera forcément. Ah oui, mais pas simple, non ?
Oui, mais c'est juste. C'est-à-dire que l'optimisme, au fond, c'est une manière de voir la vie avec une émotion qui est plutôt favorable, avec une capacité d'aller vers les autres, une capacité de sourire quand on est un petit enfant, et que quand on est entouré de parents qui sont plutôt optimistes, qui savent sourire, qui savent aussi dépasser les difficultés que tout à chacun peut avoir, ou les drames qui peuvent aussi parfois être incontestablement présents dans un contexte donné, eh bien c'est vrai que quand un enfant voit ses parents plutôt combattants contre ce qui pourrait être négatif, je crois que l'enfant en est évidemment le bénéficiaire aussi.
Alors, il ne s'agit pas de dire que tout va bien quand tout va mal, mais peut-être de dire que tout ira mieux demain, plutôt.
Hein. Oui, il s'agit... Non, je crois que vous avez tout à fait raison de souligner ça. Il ne s'agit pas d'avoir... parce que c'est un peu un lieu commun de dire l'optimisme est béat, c'est idiot d'être optimiste dans ce monde qui est quand même pas toujours très facile et qui, dans certains moments ou dans certains endroits, est incontestablement difficile. Donc il ne s'agit pas de nier la réalité. Il s'agit de faire en sorte que l'appréhension de cette réalité, l'appréhension de ce contexte, on l'appréhende de façon suffisamment combative.
Benjamin Alomé au Togo écrit ceci: les parents doivent aussi les aider, les enfants, à trouver de vrais amis, à avoir une pensée positive dans la vie. Ou encore Eugénie qui nous dit: il faut rendre son enfant confiant vers lui-même pour qu'il soit prêt à affronter la vie sans peur, toujours avec l'esprit positif, et à se battre aussi pour obtenir ce qu'il veut. Les parents doivent être pour cela exemplaires. Beaucoup de poids quand même sur les épaules des parents dans les témoignages de nos auditeurs. Anne, qui est en Auvergne, à Moulins en France: comment encourager les enfants à être positifs? Déjà avec mon expérience de la vie, nous dit Anne. Je suis une mamie. Oui, elle écrit sur Facebook. Hein. Je fais tout pour encourager mes enfants et mes petits-enfants. Je ne connais pas la défaite, car quoi qu'il arrive, les solutions existent. Il faut aimer, minimiser les problèmes, valoriser les enfants surtout. Voilà, ça sera un beau fil conducteur pour cette émission. 33 1 84 22 71 71. Appelez-nous dès maintenant les voisins et les voisines pour dialoguer avec Alain Braconnier sur l'optimisme, comment le communiquer dans l'éducation avec son enfant. Alors Alain Braconnier, finalement, qu'est-ce que l'optimisme pour un psychologue, psychiatre qui travaille avec des enfants? Vous dites dans votre livre qu'il y a deux formes d'optimisme. Il y a un optimisme objectif, un optimisme subjectif.
Oui, alors il y a deux formes d'optimisme. D'abord, lié au fait qu'on peut être optimiste à cause d'une situation. On a un succès, on réussit à l'école, ou on réussit un match de foot, on réussit son château de sable quand on est plus petit. D'ailleurs, l'enfant va dire « Regarde comme c'est beau !» Donc, il a besoin, au fond, de se sentir valorisé. Ça, c'est lié à un moment, à une situation. Et puis, il y a l'optimisme qui est un optimisme plutôt, je dirais, dans le caractère. On sait très bien qu'il y a des enfants qui sont plutôt, justement, gays, plutôt tournés vers les autres, plutôt allant vers les autres, et d'ailleurs étant agréable pour les autres, puis des enfants qui sont plutôt un peu timides, un peu inhibés, un peu repliés sur eux, et qui sont parfois pris par le sentiment qu'ils ont plutôt à subir les choses qu'à les combattre.
Et ça se voit sur des enfants très très jeunes. Est-ce que finalement les enfants sont tous égaux face à l'optimisme à la naissance?
Alors, cet optimisme, au fond, il a été très travaillé depuis, dans le champ de la psychologie, depuis une trentaine d'années. Mmh. Avant, c'était plutôt un concept général, une idée générale, ou un concept philosophique.
Oui.
Mais on l'a vraiment travaillé d'un point de vue psychologique. Pourquoi ? Y compris dans le champ de la santé, parce que on sait que quand on est plutôt un peu triste, un peu déprimé, un peu lassé, eh bien on a du pessimisme. Et quand on est au contraire pessimiste, il vaut mieux essayer de s'en dégager et là renforcer l'optimisme. Alors tout ça est évidemment beaucoup mieux connu, il y a eu beaucoup d'études depuis une trentaine d'années, et entre autres des études d'où ça vient. Et ces études ont montré que, selon les études, mais globalement, un quart serait d'origine de nature, disons, d'origine génétique à l'origine. Et c'est vrai qu'on va voir
dans
des enfants...
Dans une fratrie, on verra dans toujours fratrie, un enfant qui croit à tout et,
voilà.
Et moins les autres.
Voilà. Alors, comme il y a l'extraversion, l'introversion, aller vers les autres ou plutôt être replié sur soi, pareil pour l'optimisme et le pessimisme, un quart, ça veut dire que les trois quarts sont quand même liés à l'éducation, au contexte et à la manière...
Et les conjonctures et les contextes et culturels. Plusieurs études européennes montre tout de même que les jeunes en France sont plus pessimistes que la moyenne des jeunes en Europe. Alors il y a ces inquiétudes finalement de toute une société dans un monde en mutation. Est-ce que vous avez ce ressenti-là, vous, quand vous travaillez avec des jeunes?
Oui, alors ça dépend quel âge. Hein. Ce que j'ai pu, au fond, constater, c'est que, comme vous le disiez tout à l'heure, les enfants sont quand même plus optimistes que les adultes. Pourquoi? Parce que quand on réfléchit 30 secondes au bébé, il arrive au monde, il connaît rien, il maîtrise rien, et pourtant il découvre le monde. Et il peut être même émerveillé par le monde. C'est un grand optimiste quand on y réfléchit 30 secondes. Et puis évidemment, petit à petit, le caractère, mais aussi les événements de la vie vont faire qu'il peut être plus triste, et même parfois même être très triste. Mmh. Alors, tout cela fait que les jeunes, quand ils deviennent adolescents, si on parle des jeunes autant qu'adolescents, c'est vrai qu'ils sont toujours dans des paradoxes, les adolescents. Et ils peuvent être certainement très optimistes et à certains moments très pessimistes. Et que c'est pas toujours très facile de savoir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Qu'est-ce que, au fond, est le continuum chez ce garçon, chez cette fille devenant adolescent. Mais les jeunes sont aussi confrontés au monde tel qu'il est. Ils voient le monde, ils sont intelligents, ils sont curieux. Et ils voient bien qu'il y a aussi des problèmes et Et surtout, ils s'inquiètent aussi pour leur avenir.
Alors, vous nous posez des questions qui nous interpellent en tant que parents dans votre livre, Alain Braconnier, parce que vous dites qu'il faut absolument tenter de mesurer l'optimisme de son enfant ou de son adolescent. Autant vous dire que personne n'a cette idée.
Non,
d'ailleurs, si on demande à un parent « Votre enfant est-il optimiste ou pessimiste ?», c'est pas facile de répondre.
Alors, on a un sentiment spontané. On sent que son enfant est plutôt optimiste ou pessimiste, mais on va pas l'évaluer comme on évalue d'autres aspects, en particulier physiques, chez l'enfant. Et pourtant...
Alors, comment on mesure l'optimisme?
Alors, on le mesure
pour vous, le psychologue, et pour vous, pour nous, les parents, c'est pas la même chose. Déjà, on n'a pas les mêmes outils.
Oui, mais on peut, parents et psychologues, avoir les mêmes, parce que c'est sur des comportements, sur des attitudes. C'est-à-dire qu'un enfant qui va vers les autres, un enfant qui est curieux, mieux. Un enfant qui paraît être motivé par ce qu'il fait, incontestablement, ce sont les caractéristiques de l'optimiste. Un enfant qui manque de curiosité, qui va difficilement vers les autres, qui est plutôt replié sur lui, c'est plutôt un signe de, et qui est peu motivé, c'est plutôt un signe d'une crainte, mais aussi de pessimisme. C'est-à-dire de se représenter que c'est bien difficile d'affronter ce qui est en train de se passer, ce à quoi on est confronté.
Et puis, il
y a évidemment aussi des petits questionnaires tout simples qui ont été vraiment bien fait, bien validé, c'est pas quelque chose qui est comme ça superficiel et en l'air, et que les parents peuvent utiliser, qui font qu'on peut, si on s'inquiète, si on s'interroge, se dire « Ah tiens, je vais regarder mon enfant, quelle est sa tendance ?» C'est pas une question d'être optimiste ou pessimiste, c'est des tendances plutôt vert ou plutôt vert.
Mais pourquoi, dans le fond, c'est utile de savoir où en est son enfant avec l'optimisme ?
Alors c'est utile parce que on a envie que son enfant puisse être une fois de plus motivé, puisse l'école compte beaucoup, le fait qu'il puisse être heureux et le fait qu'il puisse entreprendre les choses. Au fond, l'optimisme, c'est une manière d'être qui fait qu'on entreprend, qu'on est plus heureux, qu'on est plus motivé, qu'on va vers les autres et donc c'est utile pour la vie. C'est utile de savoir rencontrer les autres. C'est utile de s'intéresser à ce qui se passe. Et c'est utile aussi, bien évidemment, d'être heureux.
Oui,
c'est
mais
même pas utile.
En
c'est,
même temps, vous,
c'est nécessaire.
Vous expliquez bien que l'optimisme, quand tout va bien, c'est pas ce qui est le plus utile. L'optimisme est surtout utile quand ça ne va pas bien. Quand vous travaillez avec un enfant qui a des soucis à l'école, ou un adolescent qui a des pensées noires, comme c'est souvent le cas, pas toujours, mais vous ressentez la nécessité de faire le point sur sa, je veux dire, son capital d'optimisme.
Oui, oui, c'est important. Il faut avoir deux attitudes, enfin je pense, c'est ce qu'on a nous, hein, les psychologues, c'est-à-dire avoir une attitude d'empathie à l'égard de l'enfant, c'est-à-dire de comprendre qu'il peut souffrir, comprendre qu'il peut être malheureux, comprendre qu'il y a des choses qui le contrarient ou même qui l'angoissent, et en même temps, faut essayer de le tirer vers une vision plus, je dirais, dynamique de la vie, grâce au fait de développer chez lui, et c'est possible, sa curiosité, son intérêt pour les autres, son intérêt pour le monde.
Alors, comment développer l'optimisme chez votre enfant ? Vous pouvez bien sûr nous appeler pour dialoguer avec Alain Braconnier ou nous livrer aussi votre vision de l'optimisme dans l'éducation et dans vos relations avec vos enfants. 33 1 84 22 71 71. C'est la soue chez 7 milliards de voisins. Nous parlons de l'optimisme aujourd'hui, cette valeur ô combien importante pour élever un enfant, lui donner confiance en l'avenir et puis confiance aussi dans ses capacités à se réaliser. Alors, il ne s'agit pas de l'optimisme béat, on en parlait, Alain Braconnier, hein, ça n'empêche pas la lucidité. Vous publiez L'enfant optimiste, donc là, c'est la première marche de l'éducation pour vous. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons une voisine qui nous appelle de Pretoria. Bonjour Francise.
Bonjour Emmanuel.
Francis, soyez la bienvenue. Vous êtes gabonaise, mais vous êtes en ce moment à Pretoria. Et vous avez pris du recul, je crois, avec vos enfants par rapport à votre propre enfance et la façon dont vous avez grandi avec vos parents.
Oui, tout à fait.
Oui, expliquez-nous.
Alors, je disais que pour moi, pour mettre l'optimisme avec de l'enfant, il faut le faire dès le départ. Par exemple, moi, quand j'étais plus petite, avec mes sœurs, on trouvait que nos parents formaient un très beau couple. Il y avait assez d'harmonie à la maison. Et donc, on rêvait d'être plus grande pour pouvoir être dans les foyers aussi comme ça, avec nos enfants. On se sentait en confiance, on était rassurés. Et donc, même pour l'avenir, ça nous a beaucoup aidés.
Et ça, vous le ressentez aujourd'hui avec le recul ou vous en aviez conscience à l'époque, lorsque vous étiez enfant ?
Avec le recul. Je pense que c'est avec le recul que nous nous sommes rendus compte que si on était consciente aujourd'hui, c'est parce qu'avant, on avait eu, on va dire, de bonnes bases.
Oui, oui. Et pour vous, c'est essentiel qu'un parent montre l'exemple dans ce domaine-là, malgré parfois, tout de même, les difficultés de la vie.
Oui, pour moi, c'est important parce que je me dis que ce sont les premiers repères de l'enfant qui, en tant que future maman, je passe tout mon temps à pleurer devant mon enfant. Il voit que je suis pas heureuse, je suis pas épanouie et que je fais rien pour aller de l'avant. Lui aussi, il aura pas confiance en l'avenir et il voudra pas faire plus. Il sera tout le temps déçu.
Mmh. Et alors, comment vous élevez vos enfants aujourd'hui, justement ? Donnez-nous quelques exemples. Quel âge ont vos enfants, Francise ?
Alors moi, j'ai pas d'enfants, mais je vis avec mes nièces, les enfants de mes grandes sœurs.
Oui.
Voilà.
Donc vous jouez aussi une fonction parentale quelque part.
Oui, tout à fait.
Et comment vous essayez de projeter ce que vous avez reçu en cadeau d'optimisme ?
Alors déjà, on essaie de mettre les enfants dans le meilleur cadre possible, mais aussi lorsque quelqu'un revient de l'école, tout démoralisé, on leur dit que aujourd'hui c'était pas bien, il y a des jours comme ça effectivement, mais que demain ça ira mieux.
Vous avez dit aussi au Standard, Francis, que c'était important de montrer des exemples de réussite. Vous voulez dire en dehors de la famille ?
Oui, en dehors de la famille, au quartier. Dans ma cité, tout le monde se connaît.
Oui.
Et nous, quand on était plus petites, lorsque l'un des voisins avait eu le bac, parce que c'était quelque chose de grand à l'époque, quand on avait le bac, donc c'était encourageant parce qu'on voit quelqu'un du quartier qui a eu le bac. Et nous aussi, moi j'étais à peine en première, mais je savais que l'année prochaine je devais être en terminale. Et si mon voisin a eu le bac, toute la cité est en fête. Et donc ça m'encourageait à faire plus, parce qu'il faut que l'année prochaine on fasse la fête aussi pour moi dans le quartier.
Ah oui, c'est ça, c'est pas seulement l'exemple de réussite, hein, Alain Braconnier, parce que vous en parlez dans votre livre, mais c'est aussi fêter les bons moments ensemble à plusieurs, se réjouir pour les autres.
Ah oui, bien sûr, c'est très important parce que ça se partage. La fête se partage. Et faire d'une petite chose, ou d'une grande chose comme le bac à cet âge dont parle notre auditrice, c'est important parce que ça donne une vision, au fond, subjective de ce qui est en train de se passer, au-delà de l'épreuve, au-delà de la difficulté qu'on peut, ou de l'appréhension qu'on peut avoir. Et la fête est évidemment le sourire, la fête, le rire, tout ce qui peut être, au fond, des signes de joie. Sont des éléments qui renforcent ou combattent le pessimisme ou renforcent l'optimisme. Et que c'est vraiment très important. Et l'auditrice, je trouve, elle nous dit très très bien, quand elle explique son optimisme à elle, on sent bien que Francis est optimiste, elle nous explique à la fois que c'était par rapport à ce qu'elle projetait dans l'avenir, élever les enfants comme elle avait été élevée, et à la fois attribuer à ce qui se passait à un contexte qui la rendait comme ça. Oui. C'est-à-dire, c'est les caractéristiques, vraiment, la définition même de l'optimiste, essayer d'attribuer à ce qui se passe, même de négatif, des raisons suffisamment précises et qui vous envahissent pas, et en même temps projeter sur l'avenir.
Merci Francis pour ce témoignage. On va rendre l'antenne pour le flash. Vous avez dit d'ailleurs dans votre témoignage, à l'époque, le bac, c'était vraiment quelque chose. Mais non, encore aujourd'hui, il faut continuer à célébrer le baccalauréat. Hein. Il faut surtout pas céder au pessimisme de certains oiseaux de mauvais augure qui disent que le bac ne vaut plus rien. Merci d'avoir été en direct avec nous de Pretoria, Francis, chez 7 milliards de voisins. Vous restez avec nous, Alain Braconnier. On se retrouve dans 3 minutes, juste après le flash. On parle de l'optimisme.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins. Comment développer chez son enfant l'optimisme? Certes, on peut écouter les journaux, les infos sur RFI et ailleurs et garder son optimisme. Alain Braconnier, vous publiez, vous êtes psychologue, psychiatre et vous publiez L'enfant optimiste. L'optimisme, c'est la première marche de l'éducation, dites-vous, en famille et à l'école. C'est une vraie question, en tout cas dans l'air du temps pour les adultes qui ont de plus en plus de mal à cacher une certaine anxiété du chômage, de la paupérisation. Peut-être aussi s'agit-il d'un mal des pays développés qui estiment que l'avenir est plus sombre que le passé. Et pourtant, il y a aussi beaucoup de choses à dire sur la nécessité de l'optimisme. Je pense à, par exemple, des familles de réfugiés, loin de leur pays, loin de leurs proches, qui doivent élever leurs enfants en espérant que, malgré tout, demain ira mieux qu'aujourd'hui. Où que vous soyez dans le monde, en tout cas, vous pouvez nous appeler dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. Et puis en fin d'émission, on fera le point sur un autre sujet, Alain Braconnier, qui va vous intéresser. Ces nouveaux parents omniprésents que les spécialistes appellent en Amérique du Nord les parents hélicoptères. Vous nous direz ce que ce phénomène de société vous inspire comme analyse. Je vous lis le message de Saïdou à Ouagadougou, Burkina. Pour qu'un fils soit optimiste, on peut le mettre face à des épreuves et voir comment il s'en sort, puis le guider.
Oui, c'est vrai que l'optimisme s'observe et que face à des épreuves, on voit les personnes qui sont plutôt en train de renoncer ou de subir et des personnes qui sont beaucoup plus attaquants à l'égard de l'épreuve. Et c'est ce qui favorise évidemment l'initiative, si ce n'est l'initiation à la vie.
Quel pourrait être ce genre d'épreuve qui permettrait, vous nous disiez en première partie d'émission, l'optimisme, il faut le mesurer, il faut que les parents déjà aient conscience de la dose d'optimisme présente chez leurs enfants pour savoir s'il faut renforcer cet optimisme. Mais là, alors justement, pour les... Quel genre d'épreuve?
Alors, moi, je dirais toutes les épreuves telles qu'on peut les imaginer pour un enfant selon l'âge qu'il a, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est que l'épreuve soit quand même quelque chose qui puisse être accessible par l'enfant.
Oui, qu'elle ne génère pas d'anxiété supplémentaire.
Qu'elle génère pas d'anxiété ou de sentiment d'être en échec.
Oui.
Et puis l'autre élément, c'est que dire à l'enfant que quand il franchit une épreuve, c'est lui qui l'a franchi. C'est grâce à lui. C'est lui donner au fond la capacité de se rendre compte que ce à quoi il est arrivé, c'est par lui-même.
Eh bien, c'est exactement ce que nous écrit Aurélie de Cotonou au Bénin. Je dis souvent à mon fils que sa vie sera ce qu'il en fera. L'autre fois, il m'a dit qu'il voudrait bien avoir des pouvoirs, comme Spider-Man. Je lui ai répondu que son pouvoir, c'est son intelligence. Et grâce à elle, il peut trouver le moyen de tisser des toiles et de voler. Il m'a dit, mais c'est vrai ça, maman. L'optimisme, pour moi, est une valeur primordiale à enseigner à l'enfant. Un sacré beau message.
Hein, oui, c'est un beau message. En fait, l'enfant, il rêve. Hein. Il rêve d'être Spider-Man, il rêve d'être Harry Potter, enfin il rêve.
C'est la première capacité à l'optimisme.
C'est la première capacité, en tout cas c'est une capacité importante de pouvoir rêver à condition qu'en effet on puisse se dire que ce rêve est quand même un peu un rêve ou un jeu et que par soi-même on peut réaliser de temps en temps ses rêves.
Nous accueillons un voisin qui nous appelle de région parisienne au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Rachid.
Bonjour. Ben justement, je voulais intervenir à peu près sur le même thème que ce qui a été écrit là, pour dire que pour moi, ce qui me paraît le plus important pour créer l'autisme d'un enfant, c'est gérer correctement sa difficulté ou pas à affronter une difficulté, un échec. Et au cas particulier, moi j'ai deux filles dont l'une est une compétitrice née, elle déteste qu'on lui passe devant en toutes circonstances. Et l'autre, à l'inverse, déteste la compétition et recherche l'harmonie, etc. Et moi, j'ai mis des années à comprendre ça, et donc je traitais les deux de la même manière. concrètement, en râlant quand elle n'y arrivait pas, en disant qu'elle pouvait y arriver, que ça allait bien se passer, etc.
Bon. Ouais. Alors pour la compétitrice, évidemment, ça marchait très bien, ça.
Ça marche très bien, ça marche toujours aujourd'hui. Elle fait de la gym, par exemple, et quand elle rate une compétition parce qu'elle a été mauvaise, je l'engueule. Et la fois suivante, elle est bien meilleure parce qu'elle se souvient que j'ai engueulé. Et ça ne marche que comme ça.
Ouais.
Ça marche pas du tout avec l'autre. Et avec l'autre, j'ai mis des années à comprendre qu'en fait, il fallait identifier, et c'est pour ça que je voulais intervenir dans l'émission, s'attacher à identifier où sont les blocages, pourquoi elle a peur, pourquoi elle est gênée, pourquoi elle n'y arrive pas. Un petit peu, déblayer le terrain, enlever, déminer, etc. Et progressivement, elle a pris conscience et confiance qu'elle était capable de réagir par rapport aux difficultés. Et je voulais juste réagir dans l'émission parce que souvent, il y a des parents, j'ai remarqué, qui ont tendance à appliquer une méthode un peu trop brutale. J'ai, par exemple, le message sur les épreuves, j'adhère pas trop. Alors que c'est contre-productif parce que ça va effrayer l'enfant.
C'est ça, l'injonction d'optimisme peut finalement être néfaste, hein, Alain Braconnier, quand elle est trop brutale.
Oui, bien sûr, quand un enfant...
Il faut y croire, ma fille, oui, c'est ça.
Très bien, mais quand un enfant est plutôt anxieux, plutôt appréhende ce qui peut se passer, a plutôt un sentiment qu'il ne va peut-être pas y arriver, ou il ne va pas y arriver même si c'est tout à fait subjectif, il ne faut pas essayer de lui dire « allez, vas-y », c'est comme si on disait à quelqu'un qui a une fracture de jambes, vas-y, marche. Donc, ça ne marche pas. Et que, en définitive, il vaut mieux lui montrer ce qu'elle est capable de faire et ce qu'elle a surtout déjà fait. Parce que le sentiment pessimiste repose souvent sur ce qui s'est passé avant, ça n'a pas réussi, et donc ce qui va se passer ne réussit pas. Si on aide l'enfant à lui dire « Oui, mais attends, tu as quand même réussi ça, tu as quand même fait ça, tu as quand même aussi pu faire des choses qui t'ont plu et que dont tu as été fier », ça c'est vraiment l'aider. Ne pas se tourner vers les regrets, mais se tourner plutôt vers ce qui a été heureux, parce que ça aide pour la suite.
C'est ça, capitaliser sur les réussites.
Capitaliser sur les réussites, tout à fait. Et puis la deuxième chose importante, parce que ça on l'a bien maintenant compris, c'est qu'il faut montrer en quoi, quand il y a une difficulté, quand l'enfant a peur de quelque chose, c'est sur un point précis, c'est pas en général. Parce que quand on a des plutôt tendances à être pessimiste, on généralise. Ça ne va pas, je suis nul, je suis pas bon, et que ça, au contraire, il faut lutter contre ça pour donner à l'enfant le sentiment que c'est sur un point précis, mais que par ailleurs, il peut tout à fait réussir.
Rachid, merci beaucoup de nous avoir appelés. Nous allons laisser la place à d'autres auditeurs. Très bonne journée. Bravo pour vos deux filles.
Merci.
Freddy nous appelle de Lubumbashi, dans le sud de la République démocratique du Congo. Bonjour Freddy.
Bonjour Emmanuel. Je crois bien que par rapport au sujet du jour, moi j'ai l'expérience. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut inculquer dans l'enfant et que tout peut se changer. Donc j'ai mon enfant, nous avons vécu longtemps avec lui il y a de cela 15 ans. Nous vivons avec notre domestique. L'enfant,
il faut bien que je précise peut-être, Freddy, je précise bien pour nos auditeurs en fait que vous avez élevé complètement votre fils de 15 ans tout seul. Hein. Donc déjà, bravo au papa que vous êtes.
Oui. Alors, il me disait souvent, papa, il n'y a pas moyen, on ne doit plus étudier, c'est parce que regardez à la télé, il y a plus de chômage, il y a des bombes qui explosent partout.
Oui.
Je lui ai dit non. Tu dois comprendre une chose, c'est que les dirigeants aujourd'hui sont, c'est parce qu'ils étaient d'abord enfants comme toi. Ils ont étudié, aujourd'hui, ils gèrent tout, donc tu dois comprendre que demain, tu peux gérer. Il me dit que demain, tu auras du boulot. J'ai dit certainement, j'ai étudié, je suis licencié. J'aurai du boulot et toi, tu seras un grand roi. Il me dit oui, je t'aime beaucoup. Et une question qui lui est toujours revenue en tête, il me dit souvent, maintenant les bombes, il y a des petits-enfants qui explosent les bombes. J'ai dit, c'est parce qu'ils ont manqué l'éducation. La bonne éducation à donner à l'enfant, c'est aimer ses voisins, étudier, donc tout peut changer. Donc, partant de mes conseils, je vois que l'enfant aujourd'hui, il est heureux, il se sent toujours aimé. Surtout, à chaque fois que j'ai le temps, qu'il produit des bons conseils et il se porte en merveille.
Vraiment. Oui, vous avez des relations extrêmement fortes avec votre fils, hein, Freddy. J'ai l'impression que vous avez beaucoup parlé pendant son enfance.
Hein. Oui. On se parle toujours. Je le serre en première main. Je lui fais voir comment est-ce qu'il sera demain. Et il met en pratique mes conseils, c'est parce que mes parents aussi m'ont conseillé. Aujourd'hui, je suis quelqu'un, je le paye de mes envales, et je lui envoie dans une bonne école. Donc, ce sont mes conseils que je dois toujours.
Intéressant en tout cas, Freddy, votre témoignage. D'abord, un vrai témoignage de père avec son fils, hein, Alain Braconnier, cette fois dans l'éducation. Mais alors, en même temps, je vais vous laisser réagir. Hein, en même temps, on a pas mal d'auditeurs qui nous questionnent sur comment rester optimiste dans le système scolaire. Hein, une question d'Alma Hadi là-dessus, de Bamako. Comment cultiver l'optimisme à l'école?
Oui, oui, ben, bien sûr. Sur la relation entre l'auditeur et son fils, oui. Je crois que c'est une relation qui est faite d'espoir et d'échange.
Et de bienveillance.
Et de bienveillance.
Ce qui n'est pas toujours le cas à l'école.
Alors, en ce qui concerne l'école, incontestablement, l'école, c'est quand même une épreuve et une contrainte. Donc, apprendre, c'est pas toujours facile. Mais en même temps, c'est une source, évidemment, de connaissances. C'est une source aussi de liens sociaux. Et que je crois qu'il est important de se dire que l'école peut, en effet, et si ce livre concerne aussi les enseignants, c'est parce que je pense que l'école est très importante et que l'enseignement est très important, de telle façon que parents et enseignants, même combat à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'aider l'enfant à se reconnaître comme étant capable dans ce qu'il peut réaliser. C'est-à-dire que c'est ça la difficulté. Moi, je crois vraiment que tout enfant a des capacités de réussite, a des capacités de se sentir réussir, mais évidemment pas dans tout. Et que c'est ça qu'il faut essayer de trouver, non seulement en tant qu'enseignant, mais sans doute aussi en tant que parent.
Nous sommes en ligne avec Célou. Est-ce que Célou... Non, je vais prendre Patrick alors, parce que j'aurais voulu qu'on puisse réagir avec un enseignant. Vous nous parliez de l'école. Mais nous avons Patrick au téléphone à Bangui, en République centrafricaine. Bonjour Patrick.
Bonjour Bastide.
Patrick, vous avez travaillé ces derniers temps beaucoup avec des enfants réhabilités, ex-enfants soldats. Et donc forcément, vous avez été confronté à cette nécessité de réinsuffler de l'optimisme chez ces enfants-là qui ont connu beaucoup de violence.
Ah oui, Bastide, je me rappelle, je travaillais encore dans l'ONG en France, en frontière à Bangui. Nous avons eu à faire des collectes de données, et précisément sur le site Saint-Jean de Galabadia, on était parti rencontrer ces enfants face à face comme ça. Ils essaient de nous expliquer comment ce qui leur a poussé à entrer dans ce genre de trucs, hein, à intégrer le groupe armé.
Oui.
Et voilà, après leur explication, nous essayons de leur faire comprendre que voilà, c'est pas ça la seule voie, le seul chemin de réussite de la vie. Et donc voilà, à base de cela, nous essayons de les référer, soit de leur prodiguer des conseils, soit disons que aller à l'école, faire des petits commerces, des petits trucs, quoi.
Ouais. Est-ce que vous sentez que chez ces enfants-là, justement, qui ont combattu dans des groupes armés, il y a définitivement un problème, que l'optimisme est cassé chez ces enfants-là pour réécrire une autre page de leur vie ensuite?
Bon, pour un début, vous savez, c'est pas facile, Bastide. C'est pas facile parce que ils ont encore cette image de la rébellion en tête, et ça fait que donc petit à petit, à travers nos explications, à travers ce que nous leur avons dit, donc c'est maintenant de ça qu'ils vont essayer petit à petit de nous comprendre. Mais pour un début, c'est pas facile, Bastide.
Merci Patrick d'avoir intervenu à partir de Bangui. Nous sommes en ligne également avec Célou, qui est enseignant à Koundara, dans le nord de la Guinée, pas très loin de la frontière sénégalaise. Bonjour Célou.
Bonjour Emmanuel.
Alors vous souhaitez justement vous exprimer, Alain Braconnier en parlait, l'optimisme, ça se cultive, surtout aussi beaucoup à l'école.
Oui, c'est vrai. Je disais que parfois, en traitant des exercices en classe, certains élèves me disent qu'ils ne comprennent pas,
ouais,
mais qu'ils ne vont jamais comprendre certains calculs.
Ah.
Je l'ai dit souvent, mon enfant, dans la vie, il ne faut jamais perdre l'espoir, car n'est pas orphelin celui qui a perdu son père ou bien sa mère, comme disait un proverbe,
ouais,
mais plutôt celui qui a perdu l'espoir.
Ouais.
Donc, prends du courage, sois persévérant et travaille toujours. Je sais que tu vas aboutir un jour. C'est ce que je dis souvent aux enfants, c'est le conseil que je donne aux enfants et c'est le conseil que je donne à tout le monde. Parce qu'on a dit qu'il n'y a rien d'impossible pour celui qui ose l'impossible. Donc il faut affronter les choses avec persévérance, avec courage.
Oui.
Il ne faut jamais se décourager, il ne faut jamais baisser les bras devant une difficulté. C'est le conseil que je donne aux enfants.
Est-ce que vos élèves sont surpris quand vous leur montrez que vous croyez vraiment en eux et en leur réussite?
Oui, parfois ils sont un peu surpris, mais je les fais comprendre toujours que quoi qu'il en soit, ils sont c'est eux qui vont relever certains défis, c'est eux qui assureront la relève. Donc il faut qu'ils soient optimistes, il faut qu'ils travaillent dur, il faut qu'ils soient toujours courageux.
C'est ça, optimisme et courage. D'accord, on a bien compris la recette. Merci Célou, on va vous laisser parce que je crois que vous êtes en plein cours, là vous faites classe à vos...
Merci, un peu en cours. Merci Emmanuel.
Ouais. On entend les enfants qui rigolent, qui rigolent derrière vous, effectivement. Mais c'est bien, ça veut dire qu'il n'y a pas l'ombre de la chicotte dans la classe. Très bonne journée à vous.
Merci Emmanuel et mes enfants, vous souhaitez une très bonne journée.
D'accord, très bien. Vous en avez combien dans la classe, là, Célou, à Koundara, dans le nord de la Guinée? Combien d'élèves, là, aujourd'hui?
À Koundara, j'ai 36 élèves, ah, dont oui. 12 garçons et 14 et 24 filles.
Ah, plus de filles que de garçons, ben, c'est formidable. Oui. Quatrième année de primaire, hein, c'est bien ça.
C'est ça même, Emmanuel.
Allez, bravo et bon courage pour continuer vers l'optimisme dans la salle de classe et l'apprentissage. Alain Braconnier, il y a des chercheurs chinois de l'université de Hong Kong qui ont travaillé sur l'optimisme. Comment ?
Oui, alors ils ont travaillé sur l'intérêt d'être en groupe. Il y a eu une comparaison entre les jeunes de Hong Kong et les jeunes anglais. Mmh. Et on se pose beaucoup de questions dans l'éducation. Est-ce qu'il faut des petits groupes ou des grands groupes ? Eh bien, ce que cette comparaison a montré, c'est que travailler en grand groupe, c'est beaucoup plus positif qu'on l'imagine. Parce qu'on peut justement trouver sa place, on peut s'inspirer des autres, s'inspirer de ceux qui vont
ensemble. Dans la limite du raisonnable. Mais là, 36 élèves, on entendait que les enfants avaient l'air joyeux dans la classe de Célou. Évidemment, quand on a plus de 100 gamins, ça devient problématique. On parle de l'optimisme et de la motivation, beaucoup dans votre livre, Alain Braconnier, avec beaucoup de conseils pratiques. Ça s'appelle L'enfant optimiste et c'est publié chez Odile Jacob. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission néanmoins, Alain Braconnier. Dans quelques instants, on aborde un autre problème, c'est le problème des parents surinvestis. C'est une grande mode en ce moment. On y revient juste après Hocus Pocus.
J'ai pris un coup de vieux quand ce mot m'a dit monsieur, des piges de plus à chaque coup, je l'ai lu dans ses yeux. Chacun de ses regards me pousse à 2 mètres sous terre. Et c'est vrai que je pourrais être son père. Je crois que ce prénom m'irait pas. Moi, tu le vois dans mes bras. Non, il aurait peut-être mes yeux, mon nez, ma bouche. À coup sur ma peau, car trop souvent plein les couches. Je suis pas prêt à prêter mes Lego, à mettre de côté mon ego. Pas prêt à lâcher le micro, éviter les gros mots. À poser le stylo, écraser le mégot. Partager mes Haribo et mes jeux vidéo. Non, je suis pas prêt sauf si en théorie. Je passe mon tour sur l'insomnie, l'acné et les concerts de Laurie. Qui sait ce qu'il pourrait devenir? Toxico, criminel ou pire, fan de Tokyo Hotel. Je crois que ce prénom m'irait pas. Tu crois que ce prénom m'irait toi? Je crois que ce prénom m'irait. Je crois que ce prénom m'irait pas. Tu crois que ce prénom m'irait toi? Je crois que ce prénom m'irait. Ça fait bien. Yeah. Parfois j'ai douté, été tenté d'y goûter. Croquer un petit bout, bonne joue et petit nez. Un modèle réduit, mais j'ai une peur panique. D'avoir un bambin doté de cordes vocales bioniques. Peur d'être convaincu que c'est un génie. Que dans 3 tâches pourries, je vois un futur Dali. Peur d'entendre ses premiers mots et voir ses premiers pas. Son premier rendez-vous Pôle emploi. Comment le regarder en face sans aucune perspective? Quelle fresque, il ne manquerait plus qu'un père presque ivre. Non, j'ai pas la fibre, pas les épaules, pas les bastos, c'est pas le calibre. Je crois que ce prénom m'irait pas. Ouais, je serais dans de beaux draps. Nougaro chantait Cécile et Renaud Lola. J'ai choisi de la dédier à ceux que je n'aurais pas.
Papa, Hocus Pocus, chez 7 milliards de voisins, sur RFI, des parents plus investis dans l'éducation de leurs enfants et parfois même plus stricts qu'avant avec leurs enfants. C'est ce que les chercheurs américains appellent aujourd'hui les parents hélicoptères. Parce qu'en fait, c'est une métaphore assez jolie pour dire qu'ils sont toujours en train de planer dans le dos de leurs enfants pour contrôler ce que font leurs enfants. Ils sont aussi très engagés, notamment dans leur vie scolaire. Et bien sûr, on trouve des parents hélicoptères partout dans le monde. 2 chercheurs ont tenté dans une étude récente d'analyser ce phénomène. Charlie Dupio a joint l'un d'eux, Fabrizio Zilibotti, qui est par téléphone. Il dirige le département d'économie à l'université de Zurich.
the rise of this more intensive or more helicopter parenting, as we have called it.
L'émergence de ces parents hélicoptères, comme on les appelle, a débuté au début des années 90. Le phénomène a progressé jusqu'à devenir plus répandu ces 10-15 dernières années. Cela ne veut pas dire que l'on revient à l'éducation stricte des années 50 avec un contrôle direct sur les enfants, mais ces parents empruntent un peu de cela, beaucoup plus en tout cas qu'il y a 20 ans. Les parents veulent à tout prix convaincre leurs enfants de l'importance de travailler dur.
À quelles occasions ces parents hélicoptères vont en fait orienter les choix de leurs enfants? Est-ce que vous avez des exemples?
Ils peuvent prendre le temps d'aider leurs enfants pendant les devoirs, dans le but d'augmenter leurs chances de réussite à l'école. Ils peuvent aussi leur offrir des activités extrascolaires, comme des cours de musique ou de théâtre, qui, selon ses parents, contribuent aussi à la réussite scolaire. L'objectif de ces activités, c'est de faire naître chez l'enfant une certaine autodiscipline. Si ces enfants jouent d'un instrument, ce n'est pas parce que leurs parents veulent qu'ils deviennent musiciens. Je pense d'ailleurs que beaucoup de parents hélicoptères désapprouveraient ce choix de carrière. Mais ce type d'activité permet de leur apprendre à se concentrer. Et cette capacité peut être réutilisée dans d'autres domaines. À notre époque, il est très commun que les enfants, en grandissant, partent étudier dans l'université d'une autre ville, loin de celle où ils ont grandi. Contrôler directement ce qu'ils font devient alors difficile pour les parents. Donc c'est important d'avoir, on pourrait dire, endoctriné l'enfant quand il était plus petit. Comme ça, les parents sont sûrs qu'une fois seul, il fera les bons choix.
Est-ce que ces parents hélicoptères sont plus d'un certain milieu social que d'un autre ?
Je dirais que le revenu et le niveau d'éducation des parents sont deux facteurs très importants. D'abord parce que les activités extrascolaires demandent de l'argent. Et puis aussi cette obsession grandissante de vivre dans certains quartiers huppés, là où se trouvent les bonnes écoles. Dans certains pays, ces parents sélectionnent des écoles privées très précises et très chères. Tout cela, mis ensemble, participe à une forme active d'éducation. Et c'est plus compliqué pour les parents défavorisés de proposer cela à leurs enfants.
Vous dites que cette façon d'éduquer ses enfants se développe de plus en plus chez donc des parents qui ont des revenus importants et qui ont une certaine éducation. Comment expliquer que ces dernières années, on ait de plus en plus de parents hélicoptères ?
Dans notre étude, on montre qu'il y a deux paramètres importants pour déterminer l'attitude des parents par rapport à leurs enfants, le niveau d'inégalité économique et ce qu'on pourrait définir comme les retours sur investissement de l'éducation. On a utilisé des données du World Value Survey qui mène des enquêtes internationales et a notamment interrogé des parents sur ce qui était le plus important pour eux dans l'éducation de leurs enfants. Quelles valeurs doivent être le plus accentuées? On proposait aux parents interrogés des valeurs comme l'indépendance et l'imagination, qui ont quelque chose à voir avec le fait de laisser les enfants se découvrir par eux-mêmes. Ces catégories sont choisies dans des pays où il y a un faible niveau d'inégalité de revenus, comme par exemple les pays de Scandinavie, la Suède notamment. À l'opposé, des pays comme les États-Unis ou la Chine sont caractérisés par un accent plus fort mis sur le travail et par une approche plus basée sur la discipline. Si vous vivez dans un pays où, en quittant le lycée avant le bac, vous savez que vous allez finir dans une activité avec un faible niveau de revenu, alors la réussite scolaire prend toute son importance. En France, où on observe un niveau intermédiaire d'inégalité, on accorde aussi plus d'importance à ces valeurs traditionnelles dans l'éducation.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Vous connaissiez ce phénomène des parents hélicoptères, Alain Braconnier ?
Oui, je ne connaissais pas le nom qui était donné. Mais évidemment, c'est vrai qu'aujourd'hui, les parents sont inquiets sur ce qui peut devenir en ce qui concerne la vie de leur enfant et en particulier leur capacité de faire face aux contraintes telles que la vie peut se présenter. Je crois qu'il y a peut-être à la fois un excès et à la fois, je crois, le fait de pouvoir comprendre ses parents. Il y a un excès, pourquoi ? Parce que c'est pas dans le plus qu'un enfant va être plus heureux, va être plus motivé, va mieux réussir. C'est dans ce qui lui convient, c'est Je préfère toujours l'autrement au plus. C'est-à-dire que c'est pas toujours plus, pas toujours plus en faire. Mais faire de telle façon que si il a des difficultés dans tel ou tel apprentissage, eh bien on va essayer de trouver l'apprentissage où il peut réussir le mieux. Et que ça, ça m'apparaît vraiment très important. Et l'autre point important qui m'apparaît et qui fait aussi que aider son enfant, pouvoir le préparer à l'avenir, c'est une bonne chose, mais faire en sorte que ça lui soit complètement, je dirais, imposé par une éducation qui fait que on fait de cet enfant un consommateur d'efforts, je crois qu'il vaut mieux faire un effort pour ce qu'on aime qu'un effort pour ce qu'on n'aime pas.
Mais vous dites que vous les comprenez, ces parents.
Oui, je les comprends parce qu'ils sont inquiets, eux.
C'est ça. Ils sont pas optimistes pour l'avenir.
Ah oui, ils sont inquiets. C'est pour ça que je crois qu'en effet, l'enfant est plus optimiste que les parents et que les adultes. Et que cette inquiétude, il faut pas non plus faire en sorte qu'on la projette trop sur son enfant. Parce que je n'ai jamais vu d'enfants, et j'ai vu évidemment dans mon métier des enfants qui étaient en assez grande difficulté, qui avaient des problèmes. Eh bien, je n'ai jamais vu un enfant qu'un jour ou l'autre, il n'avait pas trouvé ce qui l'intéressait. Et ça, c'est quand même très important de le savoir. Alors évidemment, parfois...
Vous le rappelez, ça, demande, ça, toujours.
De le rappeler, oui. Ah oui. Et vraiment, hein, je suis profondément convaincu de ça, parce que j'en ai l'expérience.
Voilà, vous êtes un psy optimiste. Mais tout de même, quand on entend...
Mais c'est pas toujours facile d'attendre.
Est-ce qu'en même temps, c'est pas la rançon de la médiatisation, de l'éducation, du métier de parent, à force de donner des conseils à longueur de journée dans les médias, comme nous faisons aujourd'hui d'ailleurs, finalement, ça ne revient pas à mettre une pression immense sur ses épaules frêles de parents.
Je crois que la pression vient plus du monde et de la référence à l'économique, au système économique. On voit bien que les pays qui ont des soucis en ce qui concerne leur réussite économique, comme la Chine ou les États-Unis, font des parents plus consommateurs.
Alors, en un mot,
pour
lutter contre l'inquiétude aujourd'hui.
Pour lutter contre l'inquiétude, faire en sorte qu'on soit optimiste et que l'optimisme mène à la confiance et la confiance à l'estime.
Et évidemment, a fortiori pour ses enfants.
Et a fortiori pour ses enfants.
Merci beaucoup, Alain Braconnier. Vous publiez L'enfant optimiste en famille et à l'école, la première marche de l'éducation. C'est édité chez Odile Jacob. Merci d'être passé par le studio de 7 milliards de voisins.
Merci beaucoup.
Merci à vous, les voisins et les voisines, pour vos témoignages. Vous le savez, du lundi au vendredi, c'est vous qui faites l'émission. Merci à l'équipe, Cécile Lavolo, Anouk Bernet, Jonas Malé-Solars, Romain Dubrac. Demain, 7 milliards de voisins, nous parlerons de la microfinance et de ses dérives, surendettement, taux d'intérêt trop élevé, comment protéger les clients du microcrédit. Appelez-nous si vous vous sentez concerné par le sujet dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. Dans quelques secondes, le journal.